13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravie de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, c'est l'hommage lundi aux victimes de Radour-sur-Glane, 75 ans après le massacre perpétré par la division Das Reich dans ce village du Limousin, 4 jours après le débarquement. Victor Dolande a rencontré 2 femmes descendantes de familles martyres. Elles ont fait un travail de titan pour donner un visage à ceux qui ont perdu la vie ce 10 juin 1944. Nous irons en Guyane où le projet Montagne d'Or, pourtant officiellement abandonné, suscite toujours des inquiétudes pour l'environnement. Théo Manval nous expliquera pourquoi. Chloé Triomphe est allée à la rencontre des habitants de la rue de Trévise à Paris. Des habitants, vous l'entendrez, toujours traumatisés 5 mois après l'explosion accidentelle qui a fait 4 morts. Pourquoi la vaccination reste un sujet qui suscite tant de passion? Question posée à la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez, alors qu'une école à Toulouse a connu une flambée d'épidémie de rougeole. Enfin, avec Carole Ferry, nous serons dans les coulisses du rituel du pesage des bolides du 24 heures du Mans. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1. Tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Il y a une semaine, dans Tout Terrain, nous avons largement évoqué les 75 ans du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Un débarquement qui ouvrait alors la voie à la libération de la France par les Alliés, mais un débarquement qui a été suivi quelques jours plus tard, le 10 juin, par le terrible massacre de Radour-sur-Glane. Ce jour-là, les hommes de la division allemande Das Reich, 200 Waffen-SS appelés en renfort depuis Montauban pour stopper l'avancée des Alliés en Normandie, investissent le village du Limousin. Ils pillent les maisons, massacrent 642 personnes, dont 193 enfants. Un massacre toujours très présent dans la mémoire de ceux qui assistaient aux commémorations lundi, comme Annette Rigon, dont les parents ont survécu au massacre en 1944.
C'est une journée où il plane quelque chose ici. Malgré toutes ces années, il y a toujours cette empreinte-là, ce ressenti.
Pendant ces moments, justement, vous pensez à quoi, vous ?
Je pense à mes parents. Bon, ceux qui sont partis, je ne les ai pas connus, bien sûr, qu'en photo. Mais je pense à mes parents, ce qu'ils ont vécu ce jour-là. C'est inévitable.
Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Fabienne.
C'est vous qui avez recueilli le témoignage d'Annette lors de la cérémonie qui marquait lundi le 75e anniversaire de ce massacre. Avant qu'on revienne sur son formidable travail de mémoire, j'ai juste envie de vous demander vos impressions quand vous entrez dans le village qui est figé à jamais pour garder justement les stigmates du massacre.
C'est vraiment très très impressionnant Fabienne. Il faut savoir que c'est le général de Gaulle qui a décidé en 1944 de garder intact ce village, qu'il ne soit pas reconstruit pour qu'on se souvienne de l'horreur de ce massacre. Et quand on pénètre dans ce village martyr, quand on foule justement les rues de ce village, il n'est pas rare de voir des gens se recueillir au détour d'une ruelle et d'autres pleurer. C'est vraiment très très marquant.
Alors c'est dans ce cadre que vous avez rencontré ces 2 femmes dont les familles ont été touchées par ce massacre. Elles ont fait un véritable travail de titan pour mettre un nom sur les visages des 642 victimes.
Oui, Francine Brissot et Annette Rigon, la première a perdu une bonne partie de sa famille dans le massacre, mais son père a réussi à y échapper. Quant à Annette Rigon, ses parents furent le seul couple à échapper à la tuerie. Elles font partie de l'association des familles des martyrs de Radour-sur-Glane et il y a 6 ans, elles ont décidé avec le centre de la mémoire du village de mettre donc un visage sur les 642 victimes. Francine Brissot explique comment elles ont travaillé pour trouver toutes ces photos.
Au début, on a eu des réunions avec des gens de l'association, des anciens de Radour qui ont apporté leurs connaissances. On avait travaillé à partir des photos de classe, des photos existantes, des photos de mariage, des photos de foot. On a continué le travail derrière en allant chercher des documents où il y avait des photos. Notamment, on est allé plusieurs fois aux archives départementales où on a passé en revue toutes les demandes de permis de conduire, les demandes de carte d'identité depuis les années 30. On a retrouvé encore des gens dont on n'avait pas les photos.
Ces photos ont été collées sur des plaques de porcelaine et vous pouvez les voir justement dans le couloir qui va du musée au village martyr. Sur 642 victimes, il reste tout de même 100 blancs, 100 carreaux de porcelaine sans visage. Mais 75 ans après, elle continue à en retrouver. Écoutez Francine et Annette.
Il y en aura sans doute encore, parce que quelquefois, on leur en amène encore au centre de la mémoire, des gens qui retrouvent ça chez eux. Et par contre, il y en a qu'on ne trouvera pas. Il y a des bébés qui n'ont jamais été photographiés. Il y a des grands-pères aussi. Moi, j'ai mon arrière-grand-père, par exemple, on ne le trouvera pas.
On manque un peu de pistes, parce qu'on ne sait pas où on peut trouver des documents où il y a des photos. Voilà. Alors, il y a des familles, effectivement, à l'occasion d'un décès d'un parent, qui, en cherchant dans les affaires, retrouvent des photos. Et s'ils savent qu'il y a cette exposition, ils les font passer. Parce que c'est vrai que les gens sont très, très intéressés aussi.
À Oradour, il y avait aussi des réfugiés espagnols en 1940. Et même si certaines plaques blanches trouveront des visages, il est très probable, Fabienne, que cette galerie de portraits ne soit jamais totalement complète.
Et on a bien compris, c'est la première fois depuis 75 ans que ces photos sont apposées dans le village et qu'on voit ceux qui ont vécu ce drame, justement,
ce massacre, bien évidemment.
Le 10 juin 1944. Et dans un instant, on poursuit cette plongée au cœur d'Oradour-sur-Glane, marquée, on l'a dit à jamais, par le massacre du 10 juin 1944, qui, je le rappelle, a fait 642 morts, 193 enfants. Et on va voir que le devoir de mémoire de Francine et Annette va bien au-delà des cérémonies.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain, notre émission Grand Reportage sur Europe 1 avec Fabienne Lemoelle.
Et on poursuit notre plongée au cœur du village de Radour-sur-Glane, au nord de Limoges. Un village à jamais marqué par le massacre du 10 juin 44. On en parle avec vous, Victor Delande, et avec ces deux femmes, dont Annette. Annette est la fille d'un couple qui a échappé au massacre du 10 juin 1944 et pour qui le devoir de mémoire, on va l'entendre, s'impose, au point d'ailleurs que toute sa vie tourne autour d'Oradour.
Oui, Annette Rigon, 73 ans aujourd'hui, raconte son parcours. Elle n'a jamais quitté Oradour.
Dans un premier temps, ils ont été installés dans les villages provisoires. Et moi, je suis née là, quasiment, puisque j'avais 15 jours. Je suis née chez ma grand-mère à 3 km. J'y suis restée 5 ans jusqu'à ce qu'on vienne dans le nouveau bourg. Donc, voilà, ils se sont installés là. Et puis, ils avaient mon père son garage, ma mère son salon de coiffure et toute leur vie ici. Et moi aussi, j'ai pris la succession de ma maman et mon frère a pris la succession de mon papa.
Ça veut dire, pour bien comprendre, Victor, oui, qu'il y a le village d'Oradour qui garde donc, on l'a dit, les stigmates de ce massacre. Et à côté, une autre ville qui a été construite quasiment, pas à l'identique, mais on retrouve des commerces.
Exactement, on retrouve sur des devantures de commerces, justement, les noms des familles de rescapés. C'est pour ça qu'on voit vraiment que toutes ces familles ont vécu à Oradour. Francine Brissot, elle aussi, enfant de rescapés du massacre, a vécu toute sa vie dans ce village de Haute-Vienne. Elle m'a confié pourquoi Oradour, malgré elle, et toute sa vie.
On vivait là, nous, dans cet environnement.
Comme
et
une chose
on
a mal.
Voilà.
On entend. On n'a pas connu autre chose, en fait.
On n'a jamais été très éloignés.
On s'est élevé à 3 maisons de même pas.
Et on est allé à l'école ensemble.
On habitait, mais côte à côte, quoi.
J'avais l'impression que si on partait, on abandonnait. On les abandonnait, que pour que ça continue à vivre, il fallait rester là. Parce qu'au début, c'est vrai que ça a été dur, il y avait peu de gens, il n'y avait pas beaucoup de vie. Pour eux, c'était très dur. Et après, nous, en grandissant, on a pris un peu ce relais, je crois. Même, peut-être malgré nous, hein.
Et oui.
Très touchante, Annette et Francine.
Oui, on entend vraiment hein, quand elles disent la peur d'abandonner, en fait, comme ces fantômes, hein, très très présents.
Exactement. Elles n'ont qu'une crainte aujourd'hui, Fabienne, de voir finalement ce devoir de mémoire bafoué quand elles ne seront plus de ce monde.
Alors on l'a dit, dès 1944, il a été décidé par De Gaulle de garder en état le village, même s'il était forcément après le massacre en état de ruine, parce qu'on va rappeler que l'église a été incendiée, les maisons ont été pillées.
Ouais.
Des ruines dont l'état de conservation pose question aujourd'hui.
Ouais.
Le dernier escapé, c'est Robert Ebraz. Il a 93 ans. Lui, il a dit au moment des commémorations du 75e anniversaire qu'il fallait en gros laisser la nature faire les choses. C'est-à-dire que si ces ruines sont appelées à disparaître, eh bien qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Est-ce que c'est ce que tout le monde pense dans la population ?
Alors non, là pour le coup, pas du tout. L'association des familles des martyrs d'Oradour y est fortement opposée. Elle veut que ce devoir de mémoire soit entretenu. J'ai posé aussi la question à Philippe Lacroix, l'actuel maire du village. Écoutez sa réponse.
Il est bien évident qu'on ne peut pas faire de la réflexion sur toutes les habitations. Ça, c'est évident. Bon, il y a des lieux symboliques sur lesquels il faut porter un accent spécifique. Le village, le reste, doit rester tel qu'il est. Le temps, effectivement, fait son œuvre. Il faut aussi, si on peut faire en sorte que les façades des maisons puissent rester intactes, pas intactes, mais dans le meilleur état de destruction possible, hein, comme je vous disais. Lorsque le paysage disparaît, c'est toute la mémoire qui s'efface. Donc il faut absolument que ce visuel de ce qu'a été la barbarie absolue, les 642 victimes de Radour, puisse effectivement rester un témoignage très important de notre histoire nationale.
Et c'est également l'avis de l'État français qui continue de dépenser beaucoup d'argent chaque année pour entretenir justement cette mémoire. Richard Jezierski, le directeur du Centre de la mémoire d'Oradour, veut lui aller encore plus loin. Il veut faire en sorte que les jeunes et les touristes qui se rendent dans le village martyr soient davantage guidés dans leur visite.
En termes éducatifs, nous avons mis en place ce qu'on appelle la préparation à la visite, ce qui permet aux jeunes de ne pas déambuler n'importe comment dans le village et de savoir ce qu'ils vont y voir. Et on a rajouté la galerie des visages parce que enfin les gens savent qu'il y a eu 642 victimes dans le village. Parce qu'avant, j'entendais n'importe quoi, 12 morts, 50 morts, 800 morts, etc. Là, maintenant, on sait qui sont ces gens et c'était important de le faire.
Pour éviter qu'il y ait, comme cela s'est produit ces dernières années, des petits rigolos qui prennent aussi des photos pas du tout respectueuses à l'intérieur de ce village martyr.
Et donc, si je comprends bien, c'est effectivement un village qu'on peut visiter, mais avec un passage d'abord par ce centre de mémoire pour qu'on prenne bien la mesure, une fois qu'on déambule évidemment dans les rues d'Oradour-sur-Glane, de ce qui s'est passé ce 10 juin 1944.
Exactement, et justement le directeur du centre de la mémoire d'Oradour, lui, voudrait que à l'intérieur même du village où on déambule librement, il y ait quand même un peu plus d'explications pour que les gens comprennent encore mieux l'horreur de ce massacre.
Merci beaucoup Victor Delande.
Europe 1.
Dans un instant, on part en Guyane avec le projet Montagne d'Or qui continue à inquiéter certains habitants, même si le ministre de la Transition écologique a dit qu'il n'était plus d'actualité. On vous explique pourquoi avec Théo Manval.
La suite de Tout Terrain avec vous, Fabienne Lemoyle. Il est 13h16, on va quitter le continent, hein, Fabienne.
Direction maintenant la Guyane, avec François de Rugy qui était attendu de pied ferme en début de semaine. Visite finalement annulée alors que le ministre de la Transition écologique devait clarifier ce qui se joue autour du projet Montagne d'Or, le plus grand projet minier à ciel ouvert officiellement abandonné. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Vous êtes donc en Guyane depuis le début de la semaine. C'est à la dernière minute qu'on a appris que François de Rugy ne venait plus. Déjà pourquoi a-t-il annulé sa venue ?
Son entourage explique que c'est pas du tout parce qu'il se défile, hein, ou qu'il aurait voulu éviter de répondre à certaines questions. Mais vous l'avez entendu notamment sur Europe 1 le week-end dernier, il a été très touché par la disparition de plusieurs marins sauveteurs en mer au Sable d'Olonne. Ça relève aussi de son ministère, hein, puisqu'il est ministre de la mer. Donc il tenait à être présent à l'hommage national qui leur a été rendu jeudi avec le président de la République. Et il a d'ores et déjà promis qu'il viendrait bien ici en Guyane au mois de septembre pour rencontrer tous ceux qu'il devait rencontrer.
Donc ça n'a pas été mal pris par les élus et la population sur place.
Non, tous ceux à qui j'ai parlé ont bien compris ce report. François de Rugy les a appelés, il avait pris soin de prévenir tout le monde de ce report avant de l'annoncer, donc il n'y a pas eu de rancœur particulière par rapport à ça.
Alors, sa venue, je le disais, était très attendue pour éclaircir définitivement les choses autour du projet de la Montagne d'Or, un projet d'extraction d'or gigantesque qui fait polémique depuis près de 4 ans maintenant. Et il faut quand même planter le décor, c'est le plus grand gisement d'or de Guyane, 85 tonnes, près d'une réserve naturelle, de l'or que voulait extraire une société russo-canadienne. Et c'est vraiment sur ce dossier qu'il était attendu.
Et oui, parce que même s'il a dit il y a 3 semaines, François de Rugy, après le premier conseil de défense écologique, que ce projet de la Montagne d'Or ne se ferait pas, on n'est toujours pas certain de ce qu'il y a derrière ces déclarations. Est-ce que c'est tout projet minier, quel qu'il soit, dans cette zone juste à côté d'une réserve naturelle qui est écartée à tout jamais? Ou bien est-ce que c'est uniquement ce projet-là, gigantesque, avec l'utilisation prévue de cyanure pour extraire l'or qui est retoqué? Tout ça n'est pas vraiment clair et les propos des élus guyanais ici laissent penser que c'est plutôt la deuxième option. Les élus soutenaient largement ce projet parce qu'il devait créer de l'emploi et du coup aujourd'hui ils ne baissent pas les bras pour la suite. Écoutez le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre.
Ne tuons pas la poule aux œufs d'or, que cela plaise ou que cela plaise pas, il y avait un projet sur près de 700 emplois directs, près de 1400 emplois en indirect.
Dans un secteur où le taux de chômage
à plus de 23%, notamment le chômage des jeunes. Alors, c'est un besoin essentiel. J'ai défendu Montagne d'Or, comme je pourrais défendre d'autres projets qui vont certainement sortir. Il n'y a pas de raison. Les conditions environnementales seront protégées. On n'est pas en Afrique, on n'est pas au Brésil. Je pense, en ayant écouté Monsieur le ministre, puisque j'étais à Paris, il nous a reçus pendant plus d'une heure, je pense que le dossier minier n'est pas fermé.
Voilà, le dossier n'est pas fermé, dit cet élu guyanais. Donc si on comprend bien, pour lui, il y a toujours l'idée qu'il peut y avoir d'autres projets à cet endroit dans le futur.
Exactement, et c'est ça que craignent les associations de défense de l'environnement, parce que la compagnie minière Montagne d'Or fait elle aussi savoir qu'elle ne compte pas abandonner sa concession, qu'elle va tout faire pour modifier son projet et le rendre acceptable à l'avenir par le gouvernement. On va se replonger dans cette zone pour bien comprendre pourquoi ça a suscité autant de débats. On parle de déboiser et de creuser à ciel ouvert sur 2 km de long, 400 mètres de large, 300 mètres de profondeur, en pleine forêt équatorienne. On est à environ 120 km dans les terres, tout près d'une réserve naturelle intégrale, dans une zone d'exception où nous emmène Laurent Kell. C'est le représentant du WWF en Guyane.
C'est une forêt parmi les plus anciennes forêts de Guyane. En gros, une espèce d'arbre sur trois qui est spécifique au plateau des Guyanes. On est sur la forêt primaire très ancienne, plus de 2000 espèces recensées dans la zone, dont 127 espèces intégralement protégées. Donc une richesse en termes de biodiversité. On parle par exemple de l'oiseau cloche, une espèce qui est endémique à ce genre d'écosystème. Il y a bien sûr des grands félins comme le jaguar, enfin toute la faune de l'Amazonie.
En écoutant ce responsable du WWF, on voit bien que c'est un vrai sanctuaire naturel. Comment les associations de protection de l'environnement prennent les propos qu'on a entendus précédemment du patron de la collectivité territoriale de Guyane, qui dit donc que le dossier minier n'est pas fermé, et puis les propos de la compagnie minière aussi. Bref, une ambiguïté qui persiste clairement.
Eh ben oui, si elles ont crié victoire après l'annonce de l'annulation du projet tel qu'il était prévu par François de Rugy, elles ont bien conscience, ces associations, que leur bataille n'est pas encore terminée et elles promettent de maintenir la vigilance, le combat même qu'elles mènent depuis 4 ans maintenant, prêtes à passer en mode guérilla, presque pour certaines. J'ai rencontré par exemple Harry Hautebourg, il est fondateur du collectif Nemo, non à l'exploitation de la Montagne d'Or. Écoutez.
Si la compagnie Montagne d'Or, qui a reçu un coup de pied dans le derrière par la porte, tente de passer par la fenêtre, ben nous l'attendrons derrière la fenêtre. Le rejet de ce projet par le gouvernement, ça permet de reposer les guerriers. Il faut que la compagnie Montagne d'Or comprenne, on ne va pas se laisser faire. Et s'il le faut, par l'affrontement physique.
Bon, on voit que le climat reste quand même très tendu avec certains militants écologistes. François de Rugy, on l'a dit, va arriver en Guyane au mois de septembre. Il a donc quelques semaines devant lui pour déminer, entre guillemets, le terrain. Et donc, il a fait une promesse, c'est d'essayer de calmer vraiment les choses.
Oui, avec une réforme du code minier qu'il présentera au mois de décembre. Le code actuel date du 19e siècle, donc vous imaginez qu'il n'est pas du tout à la page en termes d'environnement, par exemple. Et c'est ce texte qui définira les conditions dans lesquelles les compagnies minières pourront exploiter leurs concessions à l'avenir. Donc c'est ce texte qu'attendent maintenant et les écologistes et les populations autochtones amérindiennes aussi, qui vivent, elles, dans ces forêts. Elles attendent ce texte pour acter le fait que ce type de projet ne pourra plus jamais voir le jour. Et les autochtones vont être très vigilants, notamment sur deux points que nous explique leur porte-parole, Christophe Yanouana-Pierre.
Notre priorité à nous, c'est d'interdire totalement le cyanure dans l'exploitation minière, préserver l'eau qui, pour nous, est la plus grande richesse de la Guyane. Et notre objectif, c'est que les peuples autochtones aient le pouvoir de veto. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Grand Conseil dirait non à un projet, ce n'est pas discutable, c'est juste fini. Donc c'est ça, en fait, l'enjeu. Puis de toutes les manières, l'interdiction du cyanure balayera un grand nombre des multinationales des mines qui sont déjà présentes.
Donc on comprend bien à travers tout ce que vous nous dites, Théo, et vos interlocuteurs, que l'interdiction du cyanure est vraiment très importante pour eux. Expliquez-nous à quoi il sert ce cyanure en fait.
Alors le cyanure, il est utilisé par les grandes industries minières, donc les mines légales, les entreprises, pour réduire l'or à l'état d'une sorte de boue, de le rendre liquide en fait et le capter plus facilement après. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre avec ce qui est utilisé par les orpailleurs illégaux qui eux utilisent des sortes de tamis dans les rivières et qui utilisent du mercure, donc ce n'est pas la même chose. Les orpailleurs illégaux dans les rivières utilisent le mercure pour aimanter en quelque sorte l'or et le récupérer plus facilement. Pour les grandes compagnies minières, c'est on le réduit en quelque sorte à l'état de boue pour le capter d'une autre manière avec du cyanure effectivement.
Et vous me disiez, ces populations autochtones ne sont pas dupes en tout cas de ce qui se joue en ce moment.
Oui, les habitants des zones forestières voient bien que depuis 3 ans, le nombre de permis d'exploration accordés à des entreprises minières augmente, donc potentiellement le nombre d'exploitations véritables par la suite. C'est pour ça qu'ils espèrent vraiment avoir le droit de mettre ce droit de veto. Il y a eu 14 permis accordés par le gouvernement depuis 3 ans pour des explorations. C'est une augmentation par rapport à la période précédente. Donc on le voit bien, on n'a pas fini de parler et de débattre sur la question des mines dans la forêt amazonienne ici en Guyane.
Merci beaucoup Théo Manval et on comprend bien pourquoi François de Rugy est si attendu désormais au mois de septembre en Guyane. Merci à vous.
Merci à vous, à bientôt.
Europe 1.
Dans quelques instants, on revient sur cette explosion accidentelle rue de Trévise à Paris qui avait fait 4 morts il y a 5 mois. Certains habitants viennent à peine de récupérer leurs clés. Témoignage à suivre.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Il est 13h28, tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et un témoignage. En effet, vous revenez maintenant sur la déflagration qui, au début de l'année, avait soufflé tout un carrefour dans la capitale.
Le samedi 12 janvier dernier à 8h59 du matin, la rue de Trévise à Paris était secouée par une violente explosion. Bilan 4 morts et l'enquête qui s'oriente désormais vers une canalisation de gaz. 5 mois après, les habitants des immeubles les plus touchés viennent à peine de récupérer leurs clés, comme Vanessa que vous avez entendu dans le journal de la mi-journée mercredi sur Europe 1.
On a été complètement sidérés, on a réalisé la violence de l'explosion. On est allé chercher des souvenirs, mes photos, la médaille de ma grand-mère, des petites choses qui faisaient du bien. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on veut chercher, c'est son ancienne vie.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli les témoignages de ces habitants, dont Vanessa, qu'on vient d'entendre, des habitants encore sous le choc, qui n'ont pas forcément envie, vous m'avez dit, de s'épancher.
Oui, c'est vrai qu'on les a peu entendus, d'abord parce que le choc a été très important, mais aussi parce que depuis, eh bien, ces habitants ont eu tout à faire pour reconstruire leur vie, trouver par eux-mêmes un autre appartement pour se reloger confortablement, parce que ce provisoire va durer, on leur a annoncé, 3 ou 4 ans pour Imen, son mari et leurs 2 enfants. Le parti pris a donc été de voir à moyen terme.
Notre appartement étant l'un des plus touchés de l'immeuble, on s'est dit qu'on a, de fait, on récupérerait pas grand-chose. Donc on a pris le parti de nous installer dès le début, quoi. On a campé 2-3 semaines le temps de tout racheter, mais on a pris le parti de racheter un beau canapé, des lits, tout ce qu'il fallait en électroménager, parce que je trouvais que déjà le traumatisme avait été assez grand, donc j'avais pas envie de m'imposer ça et surtout d'imposer ça aux enfants qui ont eu très vite peur de plus rien avoir, qu'on n'ait plus d'argent, qu'on n'ait plus de choses, donc il fallait les rassurer d'un point de vue matériel.
Alors il faut préciser quand même dans quelles conditions financières se fait tout cela, parce que c'est pas un détail, les loyers sont pris en charge selon les compagnies d'assurance pendant 1 an, 18 mois, voire 2 ans, mais en revanche pour les meubles, eh bien chacun a dû se débrouiller, parce que comme les assurances n'ont pas encore pu accéder aux appartements et donc constater la destruction des biens, eh bien elles n'ont rien remboursé. Alors comme me le disait Imen, il faut avoir les reins solides ou une très grande solidarité autour de soi, parce que meubler tout un appartement d'un coup, eh bien, ça coûte très cher.
Alors soyons clairs, Chloé, et on entend à travers les témoignages, ces habitants ont récupéré leurs clés, mais leurs appartements sont totalement inhabitables.
Oui, il y avait même un dentiste qui exerçait dans l'immeuble, autant dire que son activité professionnelle et donc sa source de revenus, eh bien, c'est compliqué. Il doit exercer temporairement ailleurs, mais pour les appartements, en fait, ça dépend des étages, ça dépend des ailes du bâtiment. Certains ont pu revenir sur place, comme Vanessa, et voilà le mot qui résume son impression.
La sidération. On a été complètement sidérés, on a réalisé ce qui était arrivé, la violence de l'explosion. En plus, nous, c'est assez particulier, c'est-à-dire pour accéder à notre appartement, on est obligé de passer par 2 autres appartements, parce qu'on passe par le balcon du 2e étage, notre cage d'escalier étant complètement détruite. Donc aussi, il y a un côté très déstabilisant de voir ces appartements qui ont été abandonnés avec le verre qui est encore posé là, enfin, en milieu d'une vie, en milieu d'un moment. Et ouais, c'est assez déroutant.
Et ce qui est très étonnant, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai entendu votre reportage cette semaine à la mi-journée, c'est que ces habitants doivent désormais assurer eux-mêmes la surveillance de leurs biens pour éviter tout pillage ou pour le moins toute dégradation.
Oui, en fait, il y a eu le temps des constatations nécessaires à l'enquête, un temps pendant lequel ce sont les enquêteurs qui disposaient des clés. Ce temps est maintenant terminé et effectivement, les habitants ont repris la main sur leur immeuble avec toutes les conséquences que cela implique. C'est ce que m'a expliqué Claire.
La police a libéré les lieux et nous a redonné surtout la main sur notre immeuble. On a donc repris la gestion et la surveillance de notre immeuble avec notre syndic et notre équipe de maîtrise d'œuvre. Ça veut dire qu'on a mis en place des protections physiques, des clôtures de chantier, des portes, des fenêtres et mise en place de gardiennage privé avec maître chien.
Oui, donc ça veut dire que c'est à leurs frais, même si ça leur sera peut-être remboursé après, mais en tout cas, l'argent n'est pas avancé.
Non, effectivement, c'est à elles de s'organiser. Alors, elles sont entourées, elles ne sont pas seules, mais avec le syndic, etc. Et tout ça est à mettre en place elles-mêmes.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans leur témoignage ?
C'est leur état d'esprit, avec deux aspects. D'abord, cette nostalgie de la vie d'avant que décrit très bien Vanessa quand elle a cherché à récupérer des affaires.
On est allé chercher des souvenirs, mes photos, la médaille de ma grand-mère. On a été chercher des petites choses qui faisaient notre vie et qui faisaient du bien. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un côté très frustrant parce que ce qu'on veut chercher, c'est son ancienne vie. Et en fait, ce sont que des bribes. Il y a aussi un côté très frustrant, je trouve.
Et le deuxième aspect, c'est le traumatisme, parce que tout explique qu'elles ont des peurs. Alors la peur du gaz, bien sûr, mais aussi peur d'un bruit inattendu, que ça soit un verre qui se casse, un freinage brusque dans la rue, le métro qui s'arrête, un bruit de souffle. Tout ça a changé leur quotidien, comme l'explique leur avocate, maître Elsa Crozatier.
Alors ça dépend des personnes, je ne peux pas vous répondre avec une généralité, mais il y en a pour certaines des victimes, effectivement. C'est très inquiétant de se dire qu'en fin de compte, elles auront toujours au-dessous d'elles un risque d'explosion permanent. Pour d'autres, en fin de compte, c'était plutôt rassurant de savoir qu'il semblerait que ce ne soit pas un acte malveillant, que ce ne soit pas un acte de terrorisme. Au départ, effectivement, ces personnes ne savaient même pas s'il n'y avait pas eu un acte de terrorisme, en fait. Pour que vous compreniez bien, elles se passaient devant les UMJ, c'est les unités médico-judiciaires qui ont constaté leur retentissement psychologique, qui pour la majorité des victimes qui ne sont pas des victimes physiques, en tout cas moi des clients que j'ai aujourd'hui, qui étaient que des victimes psychologiques, et elles ont un retentissement psychologique qui est supérieur à 90 jours. 90 jours, c'est colossal. Certaines ne peuvent pas reprendre d'activité professionnelle, certains sont à mi-temps thérapeutique, d'autres prennent le travail, mais c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ont des angoisses d'avoir une explosion, de tout bruit. Beaucoup de choses, en fin de compte, peuvent les stresser, les angoisser, alors qu'avant, ils n'avaient pas du tout ces perturbations.
Alors, on entend cette avocate qui parle de la piste accidentelle. Justement, on en est où de l'enquête ?
Bah, l'enquête, elle est actuellement pilotée par la justice, donc une information...
Trois juges d'instruction hein,
voilà,
dessus.
Voilà, ça veut dire que c'est une enquête a priori complexe. On sait effectivement maintenant que la cause de l'explosion n'est pas délibérée, intentionnelle en tout cas, que ce n'est pas un attentat comme le disait cette avocate, mais une explosion accidentelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité et c'est bien tout l'objet de l'enquête avec toutes les conséquences potentielles que ça va avoir sur les responsabilités et donc sur qui va payer. Des expertises ont été demandées par les juges dont les résultats sont attendus d'ici l'été.
Merci beaucoup Chloé Triomphe pour ces témoignages qui montrent effectivement 5 mois après que le traumatisme est toujours bien là. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, une nouvelle flambée de rougeole en Occitanie avec 17 étudiants contaminés dans une école d'ingénieurs. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1, va nous expliquer pourquoi les sujets sur la vaccination suscitent autant de passion dans le pays de Pasteur.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Fabienne Lemoyle, on va maintenant prendre la direction du sud-ouest de la France.
Quand une école d'ingénieurs se retrouve frappée par une épidémie de rougeole, ça se passe à Toulouse avec 17 étudiants contaminés en quelques jours, 5 hospitalisés. Et l'école de Purpan, qui devait fêter son centenaire le week-end dernier, obligée d'annuler toutes les festivités prévues pour 3000 personnes et obligée de sensibiliser tous ses élèves à la vaccination.
Dans l'école, des affiches invitent les étudiants à vérifier s'ils sont bien protégés. Alexandre, qui est en deuxième année, est rentré chez lui dans le Lot-et-Garonne pour s'assurer qu'il ne risquait rien.
Je suis rentré chez moi un week-end, j'ai récupéré mon carnet de santé et j'ai vérifié que j'avais bien mes deux doses nécessaires, et c'était le cas, donc tranquille.
À l'agence régionale de santé, le docteur Anne Guinard remarque que ces jeunes entre 18 et 24 ans connaissent souvent très mal leur statut vaccinal.
Les gens pensent souvent que la rougeole, c'est une maladie infantile. Ça circule dans toutes les tranches d'âge. Il existe des complications qui peuvent être graves, une complication neurologique. Dans un cas sur trois, on peut avoir un décès.
Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour.
Spécialiste santé d'Europe 1. Alors on vient d'entendre ce reportage de Benjamin Peter dans cette école d'ingénieurs de Purpont à Toulouse, avec cette flambée de rougeole qui a conduit donc à annuler un grand rassemblement prévu de longue date. On se souvient, là c'était cet hiver, de l'épidémie qui avait touché des saisonniers de la station de Val-Thorin, jusqu'à 47 cas recensés en pleine saison. Et puis ces trois décès en Aquitaine l'an dernier, ça témoigne de quoi ces flambées de rougeole ?
Bah, y a pas de doute, ça témoigne juste de la baisse de la vaccination en France, et notamment donc là concernant la rougeole. Hein. D'ailleurs, si, là on a parlé de Toulouse, mais toute l'Occitanie est en train de subir une épidémie, une flambée épidémique sur la rougeole. C'est la région la plus touchée en ce moment. Hein. Il y a eu 324 cas de rougeole recensés depuis le début de l'année. C'est un quart des cas au total en France. Hein. Donc c'est énorme. 91 personnes ont même dû être hospitalisées. 25 ont quand même terminé en réanimation. Ça, c'est que pour l'Occitanie. Et donc, c'est pas étonnant parce qu'en Occitanie, c'est vraiment une des régions où on se vaccine le moins contre la rougeole. Il y a certains départements en Occitanie où il n'y a que 60% des gens vaccinés. Et c'est très peu, hein, parce que pour que la rougeole arrête de circuler, ça, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le dit, il faut qu'il y ait 95% de la population vaccinée. Donc 60%, on est très loin, et c'est clairement pour ça que ça flambe en ce moment même. Parce qu'à une époque, on vaccinait contre la rougeole au début des années 80 avec une seule dose, on pensait que ça suffisait, on s'est rendu compte qu'il en faut deux. Et donc si on n'a pas ces deux doses de vaccin, on n'est pas couvert contre la rougeole qui circule en ce moment, donc il faut absolument vérifier qu'on est vacciné.
Alors vous avez donc enquêté dans Europe 1 va plus loin, c'était lundi, et il n'y a pas que la rougeole qui inquiète Mélanie.
Alors oui, il y a d'autres maladies. Chaque année en France, il faut savoir qu'il y a des bébés, il y a des enfants qui se retrouvent en réanimation, en soins intensifs, ou qui meurent carrément parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou mal vaccinés. D'ailleurs, il y a une étude en France récente là, qui a été publiée l'année dernière dans le Grand Ouest, qui a regardé tous les enfants hospitalisés en réanimation pour une infection bactérienne grave. Et on s'est rendu compte que déjà la majorité de ceux qui s'étaient retrouvés à l'hôpital dans ces situations-là n'étaient pas vaccinés ou étaient mal vaccinés, et que la plupart du temps c'était pour une méningite, alors due à un pneumocoque ou alors au méningocoque C. C'est deux bactéries pour lesquelles on a des vaccins efficaces. Et donc des enfants qui ne sont pas suffisamment bien vaccinés, qui se retrouvent à l'hôpital alors qu'ils auraient pu l'éviter, effectivement.
Et l'inquiétude aussi chez les pédiatres, c'est la coqueluche.
Ah oui, alors la coqueluche, effectivement, c'est l'inquiétude en ce moment, parce que c'est une infection contre laquelle on peut se vacciner qu'à partir de 2-3 mois. Donc il y a des tout petits bébés qui ne sont pas couverts. Et si leurs parents ou leurs grands frères, leurs grandes sœurs ne sont pas vaccinés, eh bien ils risquent d'être hospitalisés. Et ces derniers temps, cette irresponsabilité familiale, elle inquiète particulièrement les pédiatres. Donc sur la coqueluche, explique le professeur Robert Cohen, pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil.
On a des cas de coqueluche qui sont souvent des formes graves, hein, qui surviennent dans les trois premiers mois de vie avant que les enfants aient été vaccinés. Et la raison essentielle, c'est justement c'est que l'entourage n'est pas assez vacciné. Ce sont des enfants qui sont dans un état sévère, qui justifie qu'ils aient de l'oxygène, qu'ils soient ventilés et qu'ils sont hospitalisés sur des périodes relativement longues.
Alors, ce qu'il faut quand même rappeler sur la coqueluche, hein, avant tout, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a une recommandation, c'est pas obligatoire, mais toutes les personnes à 25 ans sont censées faire ce rappel, justement, en vue d'un projet futur de bébé et pour protéger ces bébés à venir, justement.
Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait dans notre pays, le pays de Pasteur, comme vous me le disiez, une telle défiance par rapport à la vaccination ?
Alors, je crois qu'en France, il y a plusieurs choses, mais avant tout, c'est quand même plusieurs scandales sanitaires qui ont marqué fortement la population.
Celui de l'hépatite B ?
Celui de l'hépatite B, le sang contaminé, le Mediator, très fortement. Il y a eu énormément
même
de
si
cas.
Ça n'a rien à voir avec la vaccination, Mediator.
Enfin, ça a encore augmenté cette défiance sur les médicaments et les vaccins particulièrement. On avait parlé du ROR et de l'autisme, et tout ça en France, ça a bien pris parce qu'il y a eu en plus ces scandales très médiatisés, des procès, des victimes indemnisées. Donc on en a beaucoup parlé, et tout ça, ça n'a fait qu'augmenter la défiance sur les médicaments. Médicaments qu'on adore, hein, d'ailleurs, en France aussi, parce qu'il y a quand même un gros paradoxe chez les Français. On a très peur des médicaments et en même temps, on en consomme énormément.
D'ailleurs, vous me le disiez, c'est un des sujets, la vaccination, autour duquel il y a le plus de passion dès que vous faites un papier à l'antenne.
Ah oui, c'est vraiment le sujet, la vaccination, que ce soit sur la rougeole, sur la grippe en hiver. Dès que je fais un sujet à l'antenne sur la vaccination et les vaccins, je reçois des mails d'insultes, des gens qui me disent que je suis vendu au labo pharmaceutique. Je n'ai jamais touché un centime de l'industrie pharmaceutique. Si je parle de vaccination à l'antenne, c'est juste pour une raison de santé publique aujourd'hui.
Moi, j'ai été témoin, j'en ai vu, j'ai rencontré des gens qui sont retrouvés en réanimation à cause d'une rougeole, des adultes par exemple, qui n'étaient pas vaccinés. Je peux vous dire qu'ils l'ont regretté fortement. Moi, j'ai vraiment une dernière qui me revient en tête, la dernière que j'ai interviewée sur le sujet. Elle était restée sourde d'une oreille quand même, elle n'arrivait même plus à taper des textos sur son portable, elle avait de telles séquelles neurologiques qu'aujourd'hui, sa vie professionnelle, encore un an après cette rougeole pour laquelle elle était hospitalisée, elle a vraiment des séquelles terribles. Donc franchement, quand vous avez vu déjà ce genre de témoignages, vous parlez de vaccination en disant aux gens, allez vous faire vacciner vraiment.
Et en connaissance de cause, merci beaucoup Mélanie Gomez, je rappelle, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe 1.
Et pour terminer tout terrain, dans un instant, nous partons au Mans pour les 24 heures avec un rituel immuable, le pesage des voitures stars du circuit. On se croira à Cannes.
Il est 13h47, la suite et fin de tout terrain sur Europe 1 avec des enjeux et du suspense. Gros plan sur l'événement du week-end, Fabienne Lemoyle.
C'est dans une heure maintenant que les bolides des 24 heures du Mans vont s'élancer sur le circuit de la Sarthe. Des bolides qui n'ont pas échappé le week-end dernier au traditionnel rituel du pesage sous les yeux de Carole Ferry.
Je suis en plein centre-ville du Mans, place de la République. À côté de moi, j'ai une balance géante, une balance qui pèse depuis hier. Toutes les voitures de course qui prendront le départ des 24 heures du Mans. On passe en revue ici les voitures, mais aussi leurs pilotes.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Alors j'avoue que je ne connaissais absolument pas ce qui s'apparente vraiment quand on vous entend à un rituel où les pilotes vont en plus, vous allez nous le raconter, au contact du public. Et c'est vraiment un moment très attendu par les passionnés des 24 heures du Mans.
Ah ben au point d'ailleurs qu'il passe en fait toute la semaine au Mans parce que vous avez les qualifications, la parade, c'est le vendredi, c'est le défilé de tous les pilotes en voiture dans les rues du Mans. Et le coup d'envoi donc cette semaine, c'est ce pesage. C'est l'une des seules courses, hein, peut-être même la seule course où le public peut assister en direct à l'homologation des voitures de course. Cette énorme balance est installée en plein centre-ville donc, et tout le monde peut venir la voir. Après c'est un peu la bataille hein, pour avoir les meilleures places. Certains d'ailleurs arrivent très tôt. Pour vous donner une idée, quand je suis arrivée pour mon direct lundi à 7h10, eh bien certains étaient déjà là. Ils étaient installés, ils étaient venus avec leur parasol pour se protéger de la pluie, leur escabeau pour être sûr de bien voir. Ça vous montre un petit peu la motivation de ces passionnés.
On se croirait au Festival de Cannes avec l'escabeau pour voir les stars justement.
Alors, on vérifie. Ah bah les stars, ce sont les voitures là.
Voilà, mais qu'est-ce qu'on vérifie sur ces voitures ?
Alors, je suis allée demander à l'un des responsables de l'organisation, Thierry Beauvais.
Donc là, vous voyez, en ce moment, il y a une voiture qui est en train d'être montée au premier poste. Ils sont en train de contrôler les dimensions de la voiture. L'autre monsieur là-bas est en train de contrôler le poids de la voiture. Voilà, ça, c'est le premier poste. Ensuite, on peut aller rejoindre la voiture précédente qui est au second poste. On voit que la voiture est déjà levée sur le pont élévateur avec trois personnes qui s'affairent en dessous la voiture. En fait, ils contrôlent différents éléments qui ont lien avec principalement la performance aérodynamique de la voiture. Comme on peut le voir, ils sont en train de mesurer différentes hauteurs.
C'est-à-dire, ça sert à quoi ?
Par exemple, le splitter, ce qu'on appelle le splitter, c'est l'aileron avant de la voiture. Il a une hauteur minimum par rapport au fond plat de la voiture. Donc ils sont en train de contrôler si cette hauteur minimum est respectée par les concurrents en fait. Donc plus loin là-bas, on vérifie la sécurité de la voiture. Ils sont en train de regarder toute la sécurité qui tourne autour du pilote.
C'est quoi ? Il faut faire attention à quoi ?
Il faut être sûr que la portière s'ouvre normalement, que la protection de tête soit bien présente, avec des bonnes dimensions, sans être endommagée, etc. Les contrôleurs techniques ont une checklist et ils s'affairent à vérifier que tout ça est correct.
Alors les pilotes sont aussi passés en revue et vous avez la chance d'avoir suivi le parcours d'une des stars, on peut le dire, de ces 24 heures du Mans.
Oui, c'est ça. Il n'est pas encore aussi connu que le gagnant de l'an dernier, Fernando Alonso, mais il est considéré comme l'avenir du sport automobile français. C'est Thomas Laurent. Il vient de Vendée, il a 21 ans seulement, 2 participations aux 24 heures du Mans, 2 podiums. En fait, c'est une passion de gamin. Il m'a expliqué que ses parents avaient un karting en Vendée. Il a donc commencé tout gosse à s'amuser sur les circuits. Et cet après-midi, ce sera donc son 3e départ au Mans.
Donc là, on va faire le check-in de la licence. Donc on présente la licence, on regarde si c'est valide, si le pilote n'a pas fait de grosses erreurs pendant le championnat et qu'il est toujours apte à conduire.
J'ai ma licence cette fois-ci.
Et une fois, vous ne l'aviez pas ?
Ouais, la première année, j'étais un petit peu perdu et j'ai oublié ma licence. Et l'an dernier, je l'avais oublié dans la voiture, elle était tombée de ma poche.
C'est bon pour vous ?
Merci beaucoup. Et donc là, du coup, bah, je vais aller me changer. Donc là, on a des panneaux noirs pour nous isoler un petit peu, avoir un petit peu d'intimité.
Pas beaucoup d'intimité quand même. Hein.
Après, j'ai envie de vous dire, on est entre mecs. Hein, donc.
Alors maintenant que vous êtes en combinaison, qu'est-ce qui se passe ?
Et bien là maintenant du coup on va checker les équipements, le casque, la combinaison, tous les sous-vêtements.
On vérifie qu'ils sont bien enregistrés, pour savoir s'ils sont bien ignifugés, de façon qu'en cas d'accident, ils puissent résister au feu qui pourrait éventuellement se déclarer dans la voiture.
Et du coup, bah voilà, donc là on vient de tout finir et puis là on va aller se peser avec le casque.
77-70.
C'est bon.
Cette année, pas de boulette, tout est bon.
Voilà, Thomas Laurent, on sent vraiment qu'il a envie de partager son expérience. Il vous raconte tout, il a l'air très sympa comme pilote en tout cas.
Mais, incroyablement sympa, je vous le confirme. Pas du tout la grosse tête. Je suis arrivée avec lui par exemple sur la place de la République et on avançait vraiment à deux à l'heure parce qu'il s'arrêtait avec tout le monde pour faire une photo, signer un autographe.
Ah bah c'est
son entourage.
Hein.
Oui, ça, son entourage m'a raconté qu'une fois, il était même arrivé en retard à une qualification parce qu'il n'arrivait pas à dire non aux sollicitations.
Oui, parce que c'est également incroyable, c'est ça que j'ai appris avec vous, c'est que ça se passe vraiment en public, c'est le moment où les pilotes sont au contact du public.
Oui, alors il y a bien un espace fermé pour toutes les démarches officielles hein, qu'on a entendues, mais les pilotes arrivent à pied sur cette place de la République, certains avec des gardes du corps, mais pas tous. Et vous avez une foule incroyable qui vient avec des cahiers, avec un album photo de tous les pilotes, enfin tout ce qui permet de collectionner les autographes de chaque édition. J'ai croisé comme ça René, ça fait 25 ans qu'il participe tous les ans à ce rituel.
Ah, pour être un moment rare, c'est vraiment le moment rare, parce que donc là, les pilotes, on les côtoie vraiment de très près au moment du pesage. Il y a Alonso qui est là et tout le monde voudrait bien l'avoir.
Fernando Alonso.
Je vais essayer d'avoir un autographe de sa part. S'il vous plaît, Fernando, please.
Ah, merci beaucoup.
J'ai réussi à avoir donc un autographe de Fernando Alonso. Ben, c'est quelque chose de unique. On ne vit pas ça tous les jours.
Et alors, vous avez même des enfants parfois qui arrivent à monter dans la voiture. Mais bon, ça, c'est vraiment pour les plus chanceux.
Et ben voilà, ça donnera des vocations. Merci beaucoup, Carole. Le départ, c'est à 15h à suivre sur Europe 1 avec Axel May. Donc, dans un peu plus d'une heure. Et votre petit protégé, Thomas Laurent, il va partir en 4e position sur la grille de départ. Donc, on lui souhaite bonne chance.
On lui souhaite bonne chance, oui.
Merci, Carole.
Merci à vous.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Victor Delangue, Chloé Triomphe, Théo Manval, Mélanie Gomez et à l'instant Carole Ferry. Un grand merci aussi à Kevin Ousty pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur Europe 1.fr. Et demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.